On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Mais auparavant, j'aimerais faire avec vous une lecture. Je l'ai relue ce matin. C'est après la prière que Salomon a faite à l'Éternel concernant la construction du temple. L'Éternel lui répond. Et en fait, il ne s'adresse pas qu'à lui. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu une réponse qui nous est à tous adressée, puisque le Seigneur est, comme je le disais vendredi, est transportable. Il était auprès du peuple, là où il était, dans le désert, tous les jours, même s'il montait, il redémontait le tabernacle et la tente de la rencontre. Le Seigneur était avec eux. Puis le temple sera construit, et puis le temple sera détruit. Et puis le Seigneur voudra construire l'Église, qui bien évidemment n'est pas des murs. C'est pour cela que le Seigneur est là où ses enfants se rassemblent. Néanmoins, concernant la réponse à la prière de Salomon, voici ce que l'Éternel dit dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Je crois que c'est bien qu'on puisse le lire et le relire tranquillement. 2 Chroniques chapitre 7. Et verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut aussi réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis. Et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi les peuples. Et si, haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Et c'est la réponse entière de Dieu. Parfois, on ne retient que ce qui ressort quand même, hein, qui nous intéresse pas mal, il faut le dire. Je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est extraordinaire. Mais la réponse de Dieu, il faut la lire jusqu'au bout. Et malheureusement, Salomon ne tiendra pas jusqu'au bout. Lui qui avait prié et à qui Dieu avait répondu, au-delà même de ce qu'il avait demandé, il avait demandé la sagesse et l'intelligence pour pouvoir conduire ce peuple et le juger, et Dieu va lui donner en plus la richesse et pas mal de biens. Mais à la fin de sa vie, entraîné par ses femmes et ses concubines, il va commettre des erreurs qui sont quand même graves. Et cela aura des conséquences. Plaise à Dieu qu'il n'en soit plus de même, qu'il n'en soit pas de même dans cette ville et dans cette région. Nous sommes quand même à une étape qui est, faut en prendre la mesure, une étape qui est marquante. Construire un lieu de culte et la maison de Dieu, c'est particulier. Moi, je vous l'ai dit dès le début, ce qui m'a touché, c'est la confiance. Je parle pour moi, puis chacun parle pour soi, évidemment. C'est la confiance que Dieu fasse à quelqu'un pour lui confier la construction de sa maison. Après, on le fait tous et chacun a pris sa part. Mais Dieu nous a fait confiance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs, ses porte-paroles. Et ce n'est pas tellement le lieu qui sera vu, c'est nous. Et nous avons obligation de marcher dans la foi et dans la fidélité de Dieu jusqu'au terme de notre vie. Ça, c'est le plus important. Alors, on va revenir à la prédication dans le livre de la Genèse. Et je vais faire une annonce que j'ai oubliée, c'est la deuxième feuille. Il y a une vente au profit de l'Action Missionnaire Junior aujourd'hui. Donc, en sortant, vous pouvez acheter différentes choses. Le but, c'est de soutenir une famille au Vietnam en lui procurant donc les moyens de vivre, de survivre avec un élevage de canards. Voilà. Donc, pensez à cela. Et puis, toutes les équipes de ménage, rendez-vous aussi à l'issue du culte pour quelques préparations en vue de samedi. Donc, on va dans le livre de la Genèse, chapitre 12 et chapitre 13, ce que l'on a vu vendredi soir et que l'on va continuer. Genèse 12 et 13, on ne va pas lire les deux chapitres comme on les a lus vendredi. On va simplement faire trois lectures. La première dans Genèse 12, verset 1, puis après on ira dans le Nouveau Testament pour revenir ensuite. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Concernant Abraham, il est encore question de lui. Au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, dans la bouche d'un témoin, Étienne, qui fait apparaître que ces chrétiens-là, ces juifs devenus chrétiens, connaissaient les Écritures. Parce que le chapitre 7 du livre des Actes est un long discours d'Étienne, rempli de renseignements très précis qui montrent qu'ils avaient une foi basé sur la révélation, mais basé aussi sur la connaissance des Écritures. Et Étienne dit ceci, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Et une dernière lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, chapitre des héros de la foi, comme on dit, Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir, un héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Premier point, l'Éternel dit. Et dès que Dieu parle, Abraham, qui apparaît pour la première fois dans l'histoire, eh bien, obéit à ce que Dieu lui dit. Le livre des Actes nous dit l'exigence, la demande de Dieu, quitte ton pays. Quitte ton pays. Et l'Épître aux Hébreux nous fait rappeler que cette parole que Dieu lui adresse, c'est une vocation. Après qu'il ait entendu cette parole, Abraham obéit à cette vocation qui lui a été donnée. Alors, je vais reprendre pour mémoire ce qu'on a partagé vendredi rapidement. Dieu lui dit, va-t'en. Comme il dira à des disciples, toi, suis-moi. Et comme il nous dit à nous, dans d'autres domaines, demandez et vous recevrez. C'est-à-dire que la foi est basée sur une parole précise que Dieu nous donne. À partir de là, on avance. Et Dieu lui dit, je te montrerai. Au travers de cette parole et au travers de la parole, le Seigneur est celui qui veut que nous portions nos regards, non pas autour de nous, sur les circonstances, parce que au moment où Dieu va nous parler, les circonstances seront en général à l'opposé de ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons et de ce que Dieu nous dit. C'est pour cela qu'il ne nous demande pas de regarder à l'extérieur, à l'entour, mais de regarder à lui. Et Dieu lui dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Et c'est le plan que Dieu a établi pour cet homme. Dès le départ, Dieu lui indique des choses et ce qu'il va faire au travers de sa vie. Et comme on l'a dit vendredi, il n'y a pas d'âge pour marcher avec Dieu, il avait 75 ans. Le moment où dans notre vie nous allons commencer à faire confiance à Dieu, d'une certaine manière dépend de Dieu et aussi de nous. Certains ont tardé et regrettent, et ils le disent, si j'avais su, j'aurais commencé à marcher avec Dieu plus tôt dans ma vie. Et d'autres disent, je regrette de ne pas l'avoir su plus tôt. Donc c'est pour appuyer le fait qu'il n'y a pas d'âge pour marcher avec Dieu. Et même dans un âge avancé, Dieu s'adresse à nous. et toute la famille est concernée. On commence par Abraham, et toute sa famille sera impactée. Quand quelqu'un se convertit, toute sa famille est concernée. Même indirectement, ce matin, vous êtes là, vous, dont une partie de la famille ne connaît pas encore le Seigneur, eh bien, indirectement, ils sont impactés, vous n'êtes pas avec eux. Alors que peut-être les voisins sont rassemblés en famille, puisqu'en plus il fait beau, mais vous n'y êtes pas, il y a un impact dans un sens, mais par la grâce de Dieu, c'est un impact qui, à un moment donné, sera dans l'autre sens. La foi est individuelle, mais immédiatement, elle a une dimension familiale. Et Abraham a commencé à bâtir un autel à l'Éternel qui lui était apparu, on y reviendra, puis un deuxième, lorsqu'il a invoqué l'Éternel, et c'est le moment où cet homme commence à prier. Il prie, et dans sa vie, c'est un progrès. Marcelin, tout à l'heure, le disait, mais en fait, vendredi soir, ce que je disais, c'est que le jour de la Pentecôte, ils étaient 120, et ils priaient. La preuve que les 120 priaient, c'est que l'Esprit est descendu et s'est posé sur chacun de ceux qui priaient et qui parlaient à Dieu et qui se sont mis ensuite à parler à Dieu dans d'autres langues des merveilles de Dieu. Et les autres les ont entendus. Mais c'est un progrès dans notre vie quand nous commençons à prier. Et on parle, on ne murmure pas, on ne crie pas. Je crois qu'il y a 126 chaises, je les ai comptées hier, plus celles qui sont derrière, mais imaginez les 126 chaises remplies, et le matin ou le vendredi soir pour nos horaires, nous sommes tous en train de prier, tous. Pas l'un plus fort que l'autre, mais tous. Quelqu'un rentre, il est pris. Ça nous est tous arrivé de rentrer dans un endroit où il y a une centaine de personnes qui parlent. Ben, vous qui n'êtes peut-être pas habitué à parler facilement, vous êtes dans le bain d'une certaine manière, et on s'adresse à vous, mais vous répondez. Le même endroit, le même nombre de personnes, trois qui parlent dans un coin, et les autres sont silencieux. Vous rentrez, vous ne savez pas ce qu'il vous faut faire. Si on s'adresse à vous, vous ne savez pas s'il faut répondre. Vous voyez que, sans chercher de l'ambiance, parce qu'il n'y a aucune ambiance à rechercher, mais le fait d'obéir à ce que Dieu dit, et de se mettre à prier, de se mettre à parler à Dieu, ça, ce n'est pas nous qui l'avons établi, c'est Dieu qui l'a établi. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Or, la prière pour Dieu, elle est d'une simplicité basique. Il nous a doués de paroles, dotés de paroles, et il nous demande, pour la prière, de faire ce qu'on fait tous les jours. Sauf qu'on ne le fait pas en s'adressant aux autres, on le fait en s'adressant à lui. Mais on ne fait rien d'autre que de faire tout ce que l'on fait tous les jours, du matin jusqu'au soir, par téléphone ou en direct, nous parlons à des gens. Et la prière, c'est parler à Dieu. Et Abraham a bâti un autel le jour où il a parlé à Dieu. C'est un événement important dans sa vie. Ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas commettre des erreurs. Du verset 10 au verset 20, il va en Égypte. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Par contre, pendant ce temps, c'est comme si Abraham avait ouvert un entre-parenthèse. Un entre-parenthèse où Dieu ne peut pas faire ce qu'il avait prévu pour lui et avec lui. Où ce qui arrive à Abraham, ce n'est pas non plus ce que Dieu avait prévu. Dieu est avec lui, mais Abraham a posé d'autres bases, d'autres points dans cette période-là où il est en Égypte. Et pour que Dieu continue d'agir dans sa vie, il faudra qu'Abraham revienne à Bethel. Il reviendra à Bethel, là où il avait établi sa tente auparavant, et là où était l'autel qu'il avait établi et là où il avait prié. Et je me dis que d'une certaine manière, en Égypte, il avait du mal à prier. Pourquoi avait-il du mal à prier? Parce qu'il était déjà dans une position de mensonge. Il avait dit à Sarah, tu dis que tu es ma sœur. Et à tout le monde, tu dis que tu es ma sœur. Comment vous pouvez mentir toute la journée et prier? C'est difficile. Déjà, quand il nous arrive de mentir, on n'est pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu nous le fait sentir. Avant, peut-être que ça nous posait moins de problèmes, mais maintenant que nous sommes chrétiens, le mensonge nous pose un vrai problème. On ne peut pas rester dedans. On est peut-être tombé dedans, pour une raison ou pour une autre, mais on ne peut pas y rester. Et le moyen d'en sortir, c'est de revenir à Dieu, de lui demander pardon, c'est la prière. Mais tant qu'Abraham ne revient pas à Bethel, il est dans une position embarrassante, plus qu'embarrassante. Il est vraiment ambigu dans sa position devant Dieu. Comment peut-il rendre témoignage à Pharaon ? Je suis un homme de Dieu. Rappelez-vous que quand il va recommencer avec Abimélec, c'est Abimélec qui va le reprendre et lui dire « Mais comment, toi qui es prophète, m'as-tu dit, c'est ma sœur ?» Voilà. Donc il devra revenir. Et puis, ça va, on va terminer avec ça, il va revenir au chêne de Mamré, et là il va bâtir un autel à l'Éternel. Et je voudrais que, en terminant, on prenne cette deuxième partie, qui pourrait s'intituler « Revenir sur le bon chemin ». L'Éternel dit, et quand il fait ce que Dieu lui dit, ce n'est pas qu'il va éviter tous les problèmes, c'est qu'il va affronter tous les problèmes et les dépasser. Parce que Dieu est avec lui. Dieu lui dit, quitte ton pays. Mais Dieu ne lui avait pas dit d'aller en Égypte. Quitte ton pays. Et c'est cette vocation qui a produit l'obéissance. Autrement dit, l'appel de Dieu, c'est toujours une parole simple. Toi, suis-moi. Dieu s'adresse à Paul et il lui dit, te serait dur de regimber contre les aiguillons. Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de là, Paul, Saul de Tarse, va partir sur un autre chemin, sur lequel il restera. Et si nous nous en éloignons, comme le Père des croyants, par moments s'en est éloigné, il faut revenir sur le bon chemin. Avec Dieu, il n'y a pas un plan de carrière détaillé que le Seigneur nous donne à l'avance. C'est toujours le jour que nous allons découvrir le plan de Dieu pour nos vies. Ça, c'est indiscutable, parce que c'est comme ça que Dieu l'a établi. Il ne nous dit pas de quoi tous les jours seront faits, mais il nous dit tous les jours, je suis avec toi, et c'est suffisant. Ce qui est à considérer, c'est peut-être pas le plan de carrière, mais c'est le plan arrière. C'est ce qu'il y a derrière toi et que tu dois quitter. Quitte ton pays, va-t'en. La parole est peut-être un petit peu dure, mais il faut que tu quittes certaines personnes et que tu t'éloignes de certains lieux, si tu veux obéir à Dieu et que le Seigneur puisse faire son œuvre dans ta vie. Alors Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et ça, c'est extraordinaire, mais il faut le faire. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et parce qu'il va faire cela, il va devenir le père des croyants. Nous sommes des croyants, non pas parce que nous croyons que Dieu existe, mais parce que nous faisons ce qu'il dit. Parce que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Et on ne va pas se permettre de les qualifier de croyants. Donc on n'est pas croyants parce qu'on croit que Dieu existe. On est des croyants parce qu'on fait ce que Dieu dit. Et chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu dit, je crois qu'on peut pouvoir le dire alors dans ce sens-là aussi, nous sommes des incroyants. Parce que nous savons que sa parole, elle est parfaite. Sa volonté, elle est bonne, agréable. Et si nous ne le faisons pas, nous faisons preuve d'incrédulité, de manque de confiance à Dieu. Et il va bâtir un autel au Dieu qui lui est apparu. Ça, c'est le point de départ. Ce que nous avons vu de Dieu dans notre vie, c'est la base. Ce que nous avons vu dans sa parole, c'est la base. Et puis il va bâtir un autre autel lorsque lui va ouvrir sa bouche et s'adresser à Dieu. Et ce seront les deux premiers autels de la vie d'Abraham. Et en fait, ce sont peut-être même les deux seuls, ceux sur lesquels, nous, en permanence, nous devons revenir, voir ce que Dieu dit. Fixer nos regards sur celui qui suscite la foi, la mène à la perfection. Et à partir de là, je prie. Quelqu'un, en sortant vendredi soir, m'a dit, j'ai appris quelque chose ce soir, j'ai découvert quelque chose ce soir. C'était quand j'ai dit que parfois, on a l'impression de ne pas progresser dans la prière. Peut-être tout simplement parce que nous prions, de manière générale, et après, on ouvre la parole de Dieu. Et c'est peut-être l'inverse qu'il faudrait faire. Dieu parle, et nous nous écoutons, et ensuite nous répondons. Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et là c'est pareil, Dieu parle à Abraham, et ensuite Abraham va prier. Eh bien, pour que nous puissions peut-être progresser dans la prière, changeons notre méthode. Ce n'est pas un changement radical, je veux dire. C'est juste inverser les deux phases, l'ordre des choses. Commencez votre temps de prière en laissant Dieu vous parler. Quel que soit le moment de la journée, ça peu importe, chacun le décide. Mais lorsque le moment vous y êtes, commencez par lire la parole de Dieu. Et après, vous priez. Et vous verrez du progrès dans la prière. C'est indéniable. Vous verrez de l'assurance dans la prière. Vous verrez peut-être que vous prierez moins longtemps, parce que ce sera plus précis. Quand j'ai commencé à prier, peut-être que j'ai été long. Long parce que j'étais concentré sur mes sujets, sur ma journée, sur la semaine, sur mes projets. Et je ne voulais rien oublier. Et en plaisantant, comme je le disais vendredi, peut-être que de temps en temps, le Seigneur, il attend qu'on ait fini en nous disant, quand on va enfin lire sa parole, mais je sais de quoi vos vies sont faites. Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, on aura soin de lui-même. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et quand vous avez lu ça, après avoir passé 20 minutes à essayer de ne rien oublier pour tout dire à Dieu, vous vous dites, mais finalement, peut-être que c'était pas si nécessaire que ça, puisque le Seigneur sait tout. Alors ma prière, si elle vient après la lecture, sur ces points-là, elle sera déjà plus rassurée. Et peut-être qu'elle va se focaliser, parce que l'Esprit de Dieu va travailler mon esprit et mon cœur sur son œuvre. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Alors que si j'ai passé un bon moment à demander à Dieu ce dont j'ai besoin, peut-être qu'après j'ai plus de disponibilité pour lui dire, et toi Seigneur, de quoi as-tu besoin? Si en plus, quand j'ai fini, je lis que tout ce qui me concerne, il le sait par avance, et il prend l'exemple des fleurs des champs et des oiseaux du ciel qui ne finissent ni ne moissonnent et notre Père Céleste les nourrit, alors à partir de là, peut-être que demain je prierai différemment. Mais en tout cas, lui, le Père des croyants, il a prié après que Dieu lui ait parlé. Voilà. Et il va continuer d'avancer. C'est la famine. Alors ça, c'est ce qu'on n'aime pas. On avance dans la foi, et alors qu'on attendait des choses peut-être faciles, voilà des difficultés qui arrivent. Ça, c'est un... Malheureusement, c'est une réalité, c'est un principe dans la vie spirituelle. Vous voulez marcher avec Dieu, les obstacles vont venir. Ils ne vont pas attendre. Ils vont venir rapidement. Parce que l'ennemi de nos âmes ne va jamais faciliter le chemin que quelqu'un emprunte pour suivre le Seigneur et pour marcher avec lui. Ah, vous voulez, vous dites que vous croyez en Dieu, vous avez confiance en Dieu, on va voir. Et quelques petites difficultés ou quelques grosses difficultés, et qui là vont mettre à l'épreuve notre foi. C'est la famine. Alors on constate qu'il manque quelque chose. Il manque du pain. Et on estime qu'on ne peut pas rester comme ça. Et on se met à penser que le mieux c'est d'aller en Égypte. Mais Dieu n'a rien à faire dans le raisonnement d'Abraham à ce moment-là. Dieu n'y est pas. Le constat, il est juste, il manque quelque chose, il manque du pain. Mais la réaction d'Abraham n'est pas de dire « Seigneur, pourvois, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, que dois-je faire ?» La réaction d'Abraham, c'est de dire « Eh bien, à côté, là, il y a tout ce qu'il faut, donc j'y vais. » Et on sait très bien que pour y aller, il va devoir déjà se mettre en position plus qu'embarrassante, puisque par rapport à son épouse, il va lui demander de mentir sur un lien qui devrait être normalement plus fort. Celui de l'époux ou de l'épouse, il le coupe en deux dès le départ. Alors s'il a coupé en deux dès le départ ce lien-là, vous imaginez que tout le reste de sa vie, pendant ce temps où il est en Égypte, c'est la même chose. Et puis il ne demande pas à Dieu, qui lui avait dit « Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction », ce qu'il doit faire, ce qu'il doit décider. Il y va. C'est un petit peu comme s'il mettait le Seigneur en stand-by. Je vais essayer de m'en sortir par moi-même. Et le Seigneur d'attendre, parce qu'il sait très bien que l'épreuve, non pas que Dieu lui a attribué, mais dans laquelle il prend de mauvaises directions, l'épreuve va faire apparaître sa foi. Et sa foi a besoin de faire des progrès. Dans sa foi qu'il a en Dieu, il a besoin maintenant de ne plus mentir. Et pour ne plus mentir, il va falloir qu'il revienne. Pour affermir sa foi, il va devoir continuer de prier. Mais là où il est en mauvaise position pour prier. Parce qu'il ne peut pas mentir à son épouse et à tout le monde, et ensuite se mettre à prier. C'est compliqué. Voilà. Et puis la foi, l'épreuve, pardon, fait ressortir ce qui doit être changé. En l'occurrence, lui, il y a de la vérité en lui, mais il y a encore du mensonge en lui, il faut que le mensonge disparaisse. Voilà. Et l'épreuve a fait apparaître que chez Abraham, il y avait encore une part de mensonge. Comme il y aura chez Pierre, pour autant devenu apôtre, une part encore d'hypocrisie qui ressortira à un moment donné et que Paul dénoncera dans l'Épître aux Galates. Comme il ressortira qu'il y a dans la vie de Pierre, en l'occurrence, puisque c'est là qu'on le voit apparaître, une base de sentimentalisme. Je donnerai ma vie pour toi. Non, je ne te demande pas tes déclarations, je te demande simplement d'écouter ma parole et d'obéir. Et de ne rien faire sur de la base hypocrite, sur, en arrangeant les choses qui seraient avec l'autre partie de l'arrangement du mensonge ou qui seraient simplement de l'émotion. Si nous avons des émotions, c'est très bien, attendons que ça se pose, et après prenons les décisions. D'ailleurs, on le dit souvent, ne prenez jamais une décision importante sous le coup de l'émotion. Mais avec Dieu, d'une certaine manière, c'est pareil. Voilà. Et j'oserais dire que, pour certains, ça fait apparaître aussi que l'onction de Dieu pourrait, si on continuait de s'enfoncer, pourrait être perdue. Parce qu'on a vu des hommes avec l'onction de Dieu, finir sans l'onction de Dieu. Saül, Salomon qui avait l'onction de Dieu à la fin de sa vie, Dieu ne cache pas qu'on a du mal à la chercher, l'onction de Dieu à la fin de sa vie. Et pourtant, il a écrit l'Ecclésiaste, il a écrit Cantique des Cantiques, il avait une onction sur lui extraordinaire. Ça ne veut pas dire que Dieu se repent, que Dieu nous reprend ce qu'il a donné, mais ça veut dire qu'à un moment donné, notre responsabilité, elle est quand même là. Elle est quand même engagée et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc tu devras remonter jusqu'à Bethel, revenir sur le bon chemin, là où était l'autel précédemment. Et ce qui est curieux à constater dans le bon sens, et je terminerai là, c'est que quand il revient là, il redevient spirituel. Il redevient équilibré dans son raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'il ne commettra plus d'erreurs, on ne va pas reprendre toute la vie d'Abraham, mais quand il revient à l'autel où Dieu lui est apparu et où il a prié, tout revient normal. Tout redevient normal dans sa vie, et il va devenir un homme de prière, il va prendre les bonnes décisions, il va faire du bien autour de lui, et quand il va s'en éloigner, patatrac, ça va recommencer. Mais quand il va y revenir, c'est de nouveau la grâce de Dieu qui va lui être accordée. Et il vint habiter parmi les chênes de Mamré, près d'Hébron. Là, il y a la grâce et la bénédiction de Dieu. Et je voudrais terminer en lisant ce passage d'Ésaïe qui atteste d'une certaine manière le rendez-vous auquel Dieu nous attend. Ésaïe 12, c'est que quelques versets, le chapitre 12 d'Ésaïe est court. Ésaïe 12, tu diras, en ce jour-là, je te loue, Éternel. Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Ce qui montre que pour Ésaïe aussi, il y a une phase où il a dû revenir. Et là, il fait le bilan. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Mais quand vous dites ça, c'est que vous êtes au bon endroit près de Dieu. Et si quelqu'un, ce matin, après avoir lu ces versets du chapitre 12 d'Ésaïe, réalisait qu'il y a du décalage, mais revenez. Revenez en prenant le bon chemin et revenez à l'autel où vous avez prié précédemment. Un peu comme parfois il nous arrive, nous, de revenir à l'endroit où on n'a pas pris la bonne direction, on s'est perdu. Ben, on revient, on sait que c'est là où on n'a pas pris la bonne direction. Mais c'est là où on peut dire, voilà, je suis là. Quelle sortie dois-je prendre ? Ben, vous avez pris juste celle d'à côté. Et quand je reviens vers Dieu et que je lui dis, Seigneur, maintenant, que dois-je faire ? Il va nous dire, mais maintenant, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que je vais faire avec toi. Et de toute façon, je t'ai dit que je ne t'abandonnerai pas, sauf que je t'attendais là. Amen.